louer le Seigneur, de rentrer dans des moments d'improvisation. Vous savez ce qu'on appelle l'esprit prophétique, c'est ce qu'on appelle dans le langage de chaque jour l'improvisation, ce que les musiciens appellent dans leur jargon l'improvisation. Et il faut qu'on sorte de tous ces cadres qui nous coincent, et puis qu'il n'y a pas seulement les prédicateurs ou les chanteurs qui vont quelque part, mais on va ensemble quelque part. Même s'il y a des personnes qui nous conduisent, on va ensemble quelque part et on apporte chacun notre onction, notre part d'esprit pour pouvoir aller sur le chemin de notre destinée, parce que notre destinée, nous en avons tous une personnelle, mais elle sera toujours liée à la destinée d'autres personnes. On va devoir travailler, louer avec d'autres personnes, organiser des séminaires ou bâtir une église avec d'autres personnes. Ce qu'il faut, c'est surtout trouver des gens aussi fous que nous. Et ça, c'est pas toujours évident. Alléluia. Puis je me disais tout à l'heure, j'étais en train de louer, je me dis, mais Claude Payen, pourtant, dans la vie de tous les jours, tu es quelqu'un d'assez normal. Bon, tu as l'air un peu bizarre, c'est vrai. Mais tu es sérieux comme gars. Même des gens te trouvent un peu trop sérieux. Et puis dès que tu rentres dans ces moments-là, si on venait me dire, tu vas mourir dans 10 minutes, ça ne me fait plus rien. Amen. Parce que Dieu est là pour nous transformer. Et donc il y a des choses, on ne peut pas les évaluer tant qu'on n'a pas mis le pied dedans. On va venir au séminaire, on va venir à la réunion, et puis on a des tas d'idées de comment ça pourrait se passer, qu'est-ce que je devrais faire, pas faire. Et puis quand on y est, on fait des trucs complètement différents. C'est pour ça que je ne fais même plus de listes bien précises avec des numéros. Je jette ça sur une feuille et puis on pioche au fur et à mesure. Et puis il y a un morceau, on a dit on le fera au dernier moment parce que c'est risqué, on n'a même pas fini. Eh bien on le fait dès la première réunion parce qu'on n'a plus envie de rester dans ces cadres qui nous coincent et on n'a rien à prouver non plus. Amen. Vous savez, il y a cette insécurité souvent qui est accrochée à notre personne ou serviteur de Dieu. On a toujours l'impression qu'il faut prouver quelque chose. Mais quand on rentre vraiment dans la présence de Dieu, on n'a plus rien à prouver. Tout ce qu'on veut, c'est Dieu, Dieu, Dieu. Alléluia. Et puis si on doit diminuer parce qu'on perd notre aspect extérieur très sérieux, ce n'est pas important pourvu que lui, il croisse. Amen. Vous savez, notre destinée, elle ne peut s'accomplir seulement parce que nous le désirons ou même parce que nous avons de la bonne volonté. Même si ces deux facteurs, ils sont incontournables. Il va falloir que devienne possible ce qui est impossible aux hommes. Pour cela que la puissance de Dieu, capable de briser les jougs et détruire les obstacles et les pièges du diable sur notre chemin, eh bien, soit agissante avec une mesure supérieure. Nous savons tous dans nos églises, dans nos ministères, que nous avons besoin d'une mesure supérieure d'esprit pour briser les jougs qui n'ont pas encore été brisés. Cette puissance, c'est ce qu'on appelle aussi l'onction. L'onction, l'esprit, la puissance, c'est synonyme. Dans Luc 4, 14, Jésus nous est dit, retournant en Galilée, avec la puissance de l'esprit. Et dans Acte 10, 38, il nous est dit, vous savez comment Dieu a oint d'esprit saint et de puissance Jésus de Nazareth. Vous savez, quand on est oint de Dieu, on est oint de l'esprit. Et le Saint-Esprit, c'est une puissance. Et Paul n'a pas honte de l'évangile parce qu'il dit c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et le mot salut dans le texte original, il sous-entend aussi bien l'idée d'être sauvé de ses péchés que d'être guéri dans son corps, délivré. C'est-à-dire de recevoir une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et la vie des chrétiens doit devenir une grande aventure. Si vous êtes marié, ça doit être une grande aventure. Si vous êtes célibataire, ça doit être une grande aventure. Alléluia. Si vous faites de la musique, ça doit être une grande aventure. Et combien d'enfants de Dieu sont frustrés parce que leur vie, elle n'est pas intéressante. À la rigueur, elle est beaucoup moins intéressante que la vie de tas de gens passionnés dans le monde. Mais moi, j'ai envie d'être quelqu'un de passionné. Si je ne suis pas passionné pour Dieu et pour les choses de Dieu, je ne sais pas pourquoi je vais m'appassionner. Amen. Avant de rencontrer Jésus-Christ, j'ai bien servi Satan. Alors maintenant, étant venu à Christ, j'ai l'intention de servir Christ bien mieux que ce que j'ai servi Satan. Et si j'ai été passionné pour des choses absurdes, inutiles, vaines, c'est comme cela que je les vois aujourd'hui. Je veux être passionné par Christ et par les choses de Dieu, par le rassemblement des saints. L'onction, vous savez, avant d'être des gens qui tombent ou des gens qui sentent ceci ou des gens qui sentent cela, même si ça fait partie du lot, si je peux dire, c'est avant tout la réponse de Dieu aux souffrances des gens. Et alors que je préparais ce séminaire, j'ai vraiment senti que Dieu me donnait cette parole. Tu sais, l'onction, c'est la réponse de Dieu aux souffrances des gens, avant d'être quoi que ce soit d'autre. C'est pourquoi aujourd'hui, l'appel qu'on va faire ce soir, on va le réserver en priorité aux gens qui sont dans la souffrance au milieu de nous. Si vous n'êtes pas dans la souffrance, tant mieux. mais on va faire avancer tout à l'heure les gens qui sont dans la souffrance, afin que le joug ou les jougs dans leur vie qui les empêchent d'être épanouis puissent être brisés, non pas à la fin du séminaire, mais dès ce soir. Vous savez, ces gens qui parfois repartent des séminaires et puis c'est eux qui n'ont rien reçu parce qu'on les a oubliés. Eh bien, on va leur donner la place ce soir. Alléluia. Jésus a dit en effet que Dieu l'avait oint pour annoncer de bonnes nouvelles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, libérer les captifs, donner un vêtement de louange à ceux qui avaient le cœur abattu. Donc l'onction est supposée amener la guérison des cœurs et des corps. Elle est supposée agir à un niveau spirituel, d'ailleurs, comme naturel. Regardez l'onction de rire, parce qu'il y a plusieurs onctions. Il est dit qu'elle est, dans les Proverbes 17-22, à son sujet, qu'un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Eh bien, la psychiatrie moderne a découvert que la bonne humeur et le rire améliorent vraiment notre état de santé. Il paraît que dans le rire, à un certain moment, votre corps, il émet une prescription pharmaceutique à votre cerveau. Il en est de même d'autres manifestations comme les pleurs et les gémissements. Ça a un impact à la fois spirituel, mais aussi au niveau du corps. D'ailleurs, il existe dans ce monde des thérapies du rire, des cris. Et ces thérapies sont bâties sur la connaissance du fait que ces choses soulagent l'âme et le corps. Quoi d'étonnant que Dieu nous dirige dans ces manifestations par son onction ? Parce que ce qu'ont trouvé les gens du monde, c'est rien d'autre que les lois spirituelles et naturelles que Dieu a établies. Ils ne peuvent rien inventer, amen. Alors qu'est-ce que ça signifie qu'être oint ? Ce terme, il sous-entend plusieurs choses. Être recouvert, être enveloppé, être badigeonné de quelque chose. On pourrait dire d'une personne qu'elle est oint d'huile solaire, d'un gâteau qu'il est oint de chocolat, et qu'une tartine est ointe de confiture. Parce que le terme en soi, il n'a rien de spirituel. Ce qui donne à ce terme son sentiment puissant, lorsqu'on parle d'onction, c'est parce que le chrétien, il est oint du Saint-Esprit. S'il veut soindre de confiture, il a le droit aussi, c'est son droit. Mais avant tout, ce qui nous intéresse, c'est qu'il est possible d'être oint du Saint-Esprit. Alléluia! D'être enveloppé, badigeonné, recouvert du Saint-Esprit. Dans le langage biblique, onction est synonyme, nous l'avons vu, de Saint-Esprit. Lorsque nous sommes nés de nouveau, l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous. Et Jean y fait référence dans 1 Jean 2:27 en disant « Vous-même, vous avez reçu une onction de la part de celui qui est saint. » Donc, qui est né de nouveau ici ? Donc, vous avez reçu une onction de la part de celui qui est saint. Il y a parfois des gens qui disent « Ouais, lui, il est ouais, moi, je ne suis pas ouais. » Si tu es né de nouveau, tu es ouais. Amen. Tu ne sais pas encore libérer peut-être cette onction, mais tu es ouais. Tourne-toi vers quelqu'un ou pince-le pour être sûr qu'il suit ce soir, qu'il ne s'est pas encore endormi. Est-ce que Michel Beau est là ? Pince-le fort. C'est un ami, on s'arrange après. Donc, tu es ouais. Il dit ailleurs, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, son onction vous enseigne toutes choses. Un chrétien est quelqu'un qui reçoit des enseignements, il reçoit des renseignements de l'intérieur. Parfois on dit, Seigneur, parle-moi, et Dieu dit oui, hop. On regarde au mauvais endroit. La Bible dit, celui qui marche avec le Seigneur, il trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Parfois on voudrait qu'une main vienne écrire sur un mur. Dieu le fait parfois. Mais il n'y a qu'un seul exemple de cela dans l'Écriture. Par contre, Dieu s'adresse à tous ses enfants dans toutes les générations pour être à l'écoute du Saint-Esprit. Il y a plusieurs onctions parce qu'il y a plusieurs mesures d'esprit. Vous savez, il est dit au sujet de Jésus qu'il avait l'esprit sans mesure. Donc si Jésus avait l'esprit sans mesure, nous qui formons le corps de Christ à plusieurs, nous avons tous l'esprit avec mesure. Aucun de nous n'a tous les ministères, aucun de nous n'a tous les dons. C'est pourquoi, aussi spirituels que nous puissions être, nous avons besoin de travailler avec d'autres. Parce que nous sommes simplement chacun une part du corps de Christ. Tandis que Christ, lui, marchant sur cette terre, il avait tous les ministères, il avait tous les dons et toutes les onctions. Parce qu'il avait l'esprit sans mesure. Nous avons tous l'esprit avec mesure. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour vous, cette mesure, elle peut augmenter. Si nous faisons certaines choses. et si nous sommes fidèles dans notre marche avec lui. Il y a la mesure de la nouvelle naissance, parce qu'on ne peut pas naître de nouveau si on ne naît de l'Esprit. Donc si on reçoit une mesure d'Esprit en nous. Il y a la mesure du baptême du Saint-Esprit, qui est encore une autre dimension et qui, entre autres, peut nous faire prophétiser, parler en langue. Maintenant, je préfère un chrétien qui ne parle pas en langue et qui marche dans l'amour que quelqu'un qui parle en langue toute la journée et qui dit du mal sur son voisin. Donc, on ne doit pas devenir si spirituel avec nos grandes onctions qu'on méprise tous ceux qui n'ont pas les mêmes. L'onction d'amour, elle est beaucoup plus importante que beaucoup d'onctions charismatiques. Alléluia. Maintenant, si on a le tout, tant mieux. Et nous sommes appelés à rechercher le tout, mais dans le bon ordre. Alléluia. Il y a des gens qui sont devenus tellement méchants alors qu'ils parlent en langue toute la journée, il ferait mieux de se taire. Lorsque quelqu'un reçoit un don de guérison, par exemple, il reçoit une onction particulière pour la guérison, qui lui permet de faire plus que simplement prier par la foi. Nous sommes tous appelés à pouvoir guérir des malades en priant par la foi. Vous le croyez ? Maintenant, Dieu va donner à certains des dons de guérison qui vont leur permettre de faire le travail plus rapidement et à une plus grande échelle. Le Seigneur veut aussi nous joindre pour servir, que ce soit pour exercer un des cinq ministères apostoliques ou autre. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un sans loindre de la mesure d'esprit qui va lui permettre de faire le travail pour lequel il l'a appelé. Sinon, ça serait injuste. Donc être oint est synonyme d'être rendu capable d'exercer un appel. Parce que tu es oint, tu vas aller là où d'autres sont allés, ça n'a pas marché pour eux, ils vont tous te dire ça ne va pas marcher pour toi, et ça va marcher pour toi. Et ça ne va pas marcher pour toi parce que tu es plus intelligent, ça ne va pas marcher pour toi parce que tu as plus de diplômes, ça va marcher pour toi parce que tu es oint. Et que ce n'est ni par puissance ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Donc on ne doit pas essayer de faire mieux que les autres, on doit essayer d'être oint là où ils ne sont pas oints. Et utiliser les autres là où ils sont oints, là où nous ne sommes pas oints. Alléluia. Ma femme, elle est oint pour le bricolage, moi je ne le suis pas. Eh bien, je ne rentre pas dans sa sphère d'autorité. Alors lorsque Dieu vous appelle à faire une chose quelconque, il vous oint pour cela, c'est-à-dire qu'il s'assure de vous équiper de la portion d'esprit qui vous permet d'avoir à la fois la puissance, l'amour aussi, la capacité de faire ce qu'il nous appelle à faire. Un évangéliste, il a une onction spéciale d'amour pour les perdus. Il parle que de perdus toute la journée. Il mange des perdus, il boit des perdus, il dort des perdus. Au bout d'un moment, si vous êtes trop longtemps avec lui, vous pensez que vous êtes perdus. Il rentre dans une église et il veut faire se reconvertir tous les gens tous les dimanches. Parce qu'il faut qu'il soit dans sa sphère d'autorité, alléluia. Mais au bout d'un moment, après vous avoir fait du bien, il vous fait du mal. L'enseignant, il a reçu une mesure d'onction pour amener une révélation de la parole aux gens. Mais on ne peut pas vivre que d'enseignement. L'apôtre a une autre onction. Et ceux qui ne sont pas appelés à un des cinq ministères apostoliques, ils n'ont pas à faire de complexe, parce que nous avons tous un appel, une destinée particulière, et donc une onction particulière. Et ce qui est important, ce n'est pas d'être dans la lumière ou d'être dans l'ombre, c'est d'être à la bonne place. Et si je suis là avec ce micro, c'est je crois que Dieu m'a appelé à tenir un micro. Sinon, humainement parlant, lorsque j'ai rencontré le Seigneur, c'est la dernière chose que je voulais faire, tenir un micro et parler devant des gens. Mais Dieu m'a oint. Je peux même faire le clown maintenant. Mais je n'arrive pas à le faire plus que mon épouse. Elle est plus oint que moi pour ça. Jésus, c'est l'envoyé des envoyés. On pourrait dire loin des oints. Il est celui qui avait l'esprit sans mesure. Le mot Christ, c'est la traduction grecque du mot hébreu Messie, qu'on traduit par Messie, qui signifie « oint ». C'est-à-dire celui qui est envoyé avec l'onction. Donc quand on voyait passer Jésus-Christ, ça ne voulait pas dire que Jésus c'était son prénom et Christ c'est son nom, comme on dit « tiens, il passe Claude Payan, Jésus-Christ ». Dans chaque fois qu'on disait « voici Jésus-Christ », littéralement on disait « voici l'oint ». Celui qui vient, qui a été oint et qui vient avec son onction. Pourquoi ? Je l'ai dit souvent, pour décompliquer la vie des gens. On en a assez des chrétiens qui compliquent toujours la vie des autres. Nous avons été oints pour décompliquer la vie des gens. Je le dis souvent, certaines personnes, on dirait, qui raisonnent en se disant « Donne-moi quelque chose de simple et je le rends compliqué en 5 minutes. » Mais notre appel, c'est le contraire. C'est d'avoir les gens qui viennent se présenter devant nous avec des choses compliquées et on leur rend les choses simples. J'en ai assez de ces enseignements qui rendent les choses tellement compliquées qu'on passe notre vie à chercher à être délivré. Et j'ai une parole pour vous ce soir. Dieu va nous ramener de plus en plus aux choses simples, aux choses rapides, pour qu'on soit efficace dans notre onction, pour faire le travail qu'il nous a appelé à faire. Parce que si on passe 20 ans à chercher ses délivrances, pendant ce temps, on ne fait pas ce qu'il nous demande de faire. Alléluia. Jésus-Christ signifie « loin ». Et le mot chrétien, donc, qui vient du mot Christ, signifie « petit oint ». Les oints qui marchent sur les traces de loin des oints, Jésus. Donc, je suis un oint. Tu es un oint. Dis-le à quelqu'un, tu es un oint. Et tu as été oint pour décompliquer la vie des gens. Tu dois être connu comme quelqu'un qui décomplique la vie des autres à cause de l'onction qui est sur toi. Moi, je connais des tas d'enfants de Dieu, ils vous compliquent la vie en 5 minutes. Il faut passer à autre chose. Donc, la vie du chrétien tourne autour de l'onction. Parce que même son titre de chrétien signifie loin. Donc, il est difficile d'enseigner la parole de Dieu sans au moins expliquer ce qu'est l'onction et sans rechercher plus de l'onction. Amen. Dans les buts de l'onction, il y en a plusieurs. Mais c'est permettre que soit menée à bien la mission que loin des oints Jésus a reçue lui-même de la part du Père et qu'il veut continuer à accomplir à travers nous, qu'il a oint à cette fin. Jésus a été oint pour sauver, c'est-à-dire pour briser les jougs que Satan fait peser sur les gens. Le verset de Actes 10, 38, qu'on a déjà cité, précise encore, vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire ou l'emprise du diable. Amen. Voilà pourquoi on doit être connu. Comme étant des personnes qui, là où elles se trouvent, elles font du bien, elles guérissent ceux qui sont sous l'emprise du diable. Donc l'onction est donnée pour briser les jougs, ce que nous dit Ésaïe 10, 27 aussi. Et l'onction fera, là il nous est dit selon les traductions, éclater les jougs. Et le terme hébreu employé ici signifie encore plus précisément, fera exploser, détruire complètement. Si vous brisez simplement un vase, vous pouvez le prendre et le recoller. Mais si vous mettez un bâton de dynamite dedans, essayez de recoller le morceau. Et c'est ce que Dieu veut faire. Il ne veut plus qu'on ait juste ces jougs cassés, brisés, qui sont recollés par le diable en l'espace d'une semaine. Il ne faut plus qu'on ait ces gens qui viennent témoigner, qui disent à quel point Dieu les a transformés, et dans la semaine après leur témoignage, on les voit faire pire que ce qu'ils ont dit que Dieu les avait délivrés. On ne veut plus que les jougs soient recollés. Amen. On veut qu'ils explosent et qu'on ne puisse plus les recoller. Dans l'unité, l'Église dégage une onction commune dont il faut vraiment prendre conscience. Selon le principe qu'un peut en chasser 1000 et deux peuvent en chasser, pas 2000, 10 000. Donc il n'y a pas additionnement, il y a multiplication. Il y a une démultiplication de l'onction lorsque nous nous assemblons dans l'unité, dans la louange, dans une adoration sincère. Cette super onction, méga onction, si on peut l'appeler ainsi, fait alors éclater les jougs qui n'ont pas encore pu sauter par notre simple onction à chacun. Et nous avons tous des domaines où on n'a pas réussi à faire exploser les jougs de nos bien-aimés, parfois de nos propres enfants, parfois de nos propres amis, parfois de nos propres conjoints. Amen. Alors qu'on a jeûné, on a prié, parce qu'on a besoin de devenir l'Église, ou du moins une part de l'Église a besoin de devenir l'Église glorieuse qui a reçu une autorité pour libérer une méga onction. Et moi, je crois dans les temps à venir, parce que je le dis souvent, Jésus vient chercher son église, et il ne peut pas venir chercher une église qui n'est pas devenue, ou du moins une partie glorieuse, et donc qui n'a pas libéré une méga onction. Et comme moi je veux faire partie de la partie glorieuse, ce qui est devant est meilleur que ce qui est derrière. Dieu nous oblige à vivre avec d'autres, à vivre l'unité dans l'amour, à vivre l'adoration, si nous voulons voir exploser tous les jougs. C'est le but de ces séminaires. Il veut nous amener vers cette onction que le Seigneur veut manifester et qu'il a manifesté à l'époque des actes, et qu'il a manifesté de tout temps, dans des époques de réveil puissant. Dieu a prévu que son peuple se lève en tant que corps et non en tant qu'individu isolé qui cherche souvent chacun une gloire personnelle pour briser tous les jougs. Alléluia, ce que je ne peux pas briser, Michael pourra les briser. Ce que Michael ne peut pas briser, un autre pourra les briser. Mais ensemble, on les brisera tous. Un temps vient où plus aucun joug ne pourra résister. Alors un peu de tenue, Claude Payen. Et ce temps est indissociable de l'unité de plusieurs ministères, église aussi, à cause de la loi de la démultiplication et de l'onction commune. Moi, j'ai cessé même de juger des frères et sœurs d'églises traditionnelles. Quand j'ai vu tous les dieux subtils qui existent dans nos églises évangéliques, je me suis dit, quand on les aura virés, nous, on s'occupera de juger les autres. Et il y a des gens ouins dans beaucoup d'endroits. Amen. Parfois, des gens à qui on a voulu donner des leçons, on se rend compte qu'ils sont plus ouins que nous. Et qu'ils ont plus d'amour et qu'ils sont plus humbles. Ça fait réfléchir. Alléluia. Nous croyons que certains des plus grands prodiges se sont accomplis dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament lorsque le peuple s'assemblait comme un seul homme. C'est cette onction qui se manifeste souvent sous forme de nuée. Elle est visible lorsque Dieu ouvre nos yeux spirituels. Ça s'appelle la gloire de Dieu, tout simplement. Souvent, on veut la gloire de Dieu sans nous-mêmes avoir une conception de la vie plus glorieuse. Dieu veut d'abord changer notre mentalité pour qu'on ait une conception de l'Église, de la vie, du couple, de toutes ces choses beaucoup plus glorieuses. Et alors, la gloire devient quelque chose de naturel parce qu'on l'attire, la gloire. Quand on a une conception glorieuse des choses au lieu de médiocre, on attire naturellement la gloire. Alléluia. Et Dieu nous a destinés à la gloire. Vous le croyez ? Je veux insister ce soir encore sur l'importance de mieux comprendre le rassemblement des saints. Parce qu'on ne réalise l'importance d'une chose qu'à condition que l'on en comprenne le sens et les enjeux qui en découlent aussi. Et si les gens réalisaient à quoi sert de s'assembler, comme dans de tels séminaires, les enjeux qui se trouvent à la clé, ce que cela représente pour le Père aussi, est-ce qu'ils pourraient continuer à négliger le rassemblement des saints, même dans leurs propres églises ? Déjà, ce rassemblement, il représente la définition même du mot « église ». Le mot « église », dans un sens très vague, c'est l'assemblée des croyants. C'est juste, mais c'est bien limité. Bibliquement, c'est beaucoup plus précis. La notion seule d'assemblée est limitée. Ce n'est pas n'importe quelle assemblée, déjà, c'est l'assemblée des croyants. Ce n'est pas l'assemblée de n'importe quel croyant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient, je dirais que même le diable y croit, alors autant s'assembler avec lui. C'est l'assemblée des croyants authentiquement nés de nouveau, lavés par le sang précieux de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'assemblée des croyants seulement, nés de nouveau, c'est encore plus précis. C'est l'assemblée des croyants placée sur cette terre par Dieu pour exercer son gouvernement sur cette terre. C'est-à-dire, nous sommes assemblés pendant ces 3 jours, et lorsque nous nous assemblons sérieusement dans une église, ou même dans une église maison, nous avons une mission, c'est exercer le gouvernement de Dieu sur cette terre. Est-ce que vous savez cela ? On veut prier pour les gens, on veut que l'onction augmente, pourquoi ? Pour que le gouvernement de Dieu s'exerce sur cette terre. Le Seigneur nous a dit de prier en priorité, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Ce qui signifie qu'il nous a donné le pouvoir d'exercer un gouvernement sur cette terre, de ne plus être ceux qui subissent ce qui se passe sur cette terre, mais ceux qui changent le cours des choses. Il y a même un passage merveilleux dans les psaumes qui disent que le juste, lorsqu'il marche dans la vallée de Baca, c'est-à-dire dans la vallée des pleurs, il la transforme en un lieu plein de sources. Le juste, il est appelé à transformer ses situations. Amen. Nous voulons que beaucoup de personnes ressortent de ce lieu ayant vu leur situation transformée. Il faut comprendre qu'il y a une autorité, un pouvoir, une onction spéciale qui est prévu se libérer du sein de l'Assemblée et nulle part ailleurs, j'insiste là-dessus, nulle part ailleurs. Je sais qu'on ne peut pas s'assembler avec tout le monde, mais il va falloir trouver des gens avec qui s'assembler pour produire cette méga onction, parce que seul on ne peut pas y arriver. Est-ce que vous me suivez? Psaume 133, 1, 2, 3, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Autre traduction, d'habiter unis ensemble. Donc ça dépasse le cadre simplement d'être ensemble. On peut être ensemble avec beaucoup de personnes et être tout seul. On peut être 5000 rassemblés, être tout seul. On peut prier ensemble, pas être dans l'unité. Il vaudrait mieux simplement prier avec quelqu'un seulement qui est dans la même unité que nous. Parce qu'ensemble, ça signifie être unis. Alléluia. Beaucoup de gens parfois se sentent justifiés parce qu'ils n'ont pas divorcé, mais ceux qui vivent avec leur conjoint, pour Dieu, c'est comme s'il était déjà. Et ils se permettent de juger ceux qui sont divorcés. Ils croient qu'ils sont unis parce qu'ils sont ensemble. Il faut élever le niveau, alléluia. Il faut élever le débat. Déjà, on ne jugera pas les autres, pour commencer. Et on vivra quelque chose qui est beaucoup plus agréable aux yeux du Père et qui nous permet vraiment de produire des résultats dans notre vie et dans la vie des autres. Et il est précisé, il est doux pour des frères de demeurer ensemble, c'est comme l'huile, la meilleure, donc pas n'importe quelle huile, l'huile la meilleure, première pression à froid, de qualité, donc une onction supérieure, vous êtes d'accord avec moi? Qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée, qui est une image du réveil, de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Et Dieu précise, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction. C'est dans ce rassemblement que Dieu apporte la bénédiction. C'est dans ce rassemblement que Dieu nous permet de produire une onction, vous me suivez bien, supérieure, qui va briser les jougs qu'on n'arrive pas à briser dans notre vie de tous les jours. C'est le but de ces séminaires. Mais je dirais même que le but de ces séminaires, c'est pas de se substituer aux églises. Parce qu'on arrive à produire certains résultats dans ces séminaires qu'on n'arrive pas à produire dans notre propre église. C'est qu'il y ait une onction, une consécration, ayant vu la gloire de Dieu se manifester, qui après se répand dans les églises. Et ce qui serait merveilleux, c'est qu'un jour on n'ait plus besoin de ces séminaires. Amen. Ou alors se rassembler, oui, mais pas dans le but de, avant tout, d'avoir cette onction parce qu'elle sera déjà là. Je vais peut-être remettre en question quelques notions extrêmes au sujet de l'autorité que nous avons chacun en tant que chrétien. Mais nous devons réaliser que plusieurs des promesses que nous nous attribuons en tant que chrétien, en tant qu'individu, concernent en fait un ensemble, un rassemblement, une église. C'est l'église, dont un rassemblement de croyants que Jésus, à qui Jésus a fait cette promesse. Ce soir, nous sommes l'église. Hein? Amen. Vous savez, il faut voir beaucoup plus loin que le nez de son église locale. L'église, c'est le rassemblement des croyants qui exerce le gouvernement sur cette terre. Matthieu 16, 18, « Sur ce roc, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Ce n'est pas un chrétien isolé que Dieu a donné cette super autorité. C'est un ensemble de personnes qui arrivent à marcher dans l'amour et dans l'unité. Ce n'est pas d'ailleurs une église passive, craintive, qui se protège des pièges du séjour des morts. Le grec sous-entend ici que les portes du séjour des morts sont prises d'assaut par cette église-là. C'est ça l'église des derniers temps, alléluia. Et je suis sûr que toute l'église ne représentera pas cette part. Mais ce qui est important pour toi, c'est de t'assurer que tu vas en faire partie. Parce que c'est celle-là que Jésus va enlever. C'est celle qui lui ressemble, celle qu'il connaît. Cette parole s'adresse à une église qui exerce un gouvernement dans le monde spirituel. C'est aussi à l'église un rassemblement de chrétiens, je le reprécise, qu'il a aussi dit qu'il forme le temple du Saint-Esprit. Et si notre corps est le temple du Saint-Esprit, chacun, comme dit Paul dans 1 Corinthiens 6, 19, c'est aussi l'ensemble que nous formons avec d'autres qui fait le temple. 2 Corinthiens 6, 16, nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, pas au milieu de lui, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Il parle à un groupe de personnes. C'est un ensemble qui produit la mesure d'esprit nécessaire à changer le cours des choses et à libérer les captifs. Et je dirais que ce qui est important à réaliser aussi, c'est l'onction qui est produite par un ensemble qui permet à certains ministères apostoliques de faire des prodiges et des miracles. C'est-à-dire que ce qui se passe pendant ces réunions, ça ne dépend pas seulement des personnes qui ont organisé cette réunion. Il nous est dit qu'à l'époque des Actes, lorsqu'ils élevaient leur voix tous ensemble, lorsqu'ils étaient une même âme et un même esprit, en conséquence de cela, il y a une onction qui demeurait sur les ministères, sur les épaules des apôtres. Amen. Donc, ils bénéficient, en d'autres termes, de l'onction commune. Nous, on voudrait que tel ministère ou tel autre nous fasse une grande démonstration de son grand ministère. Eh bien non, nous sommes appelés à nous lever à plusieurs. Alléluia. Pour que l'onction que nous produisons chacun, à un moment donné, repose sur ces ministères qui prient pour les gens. Et pour cela, nous sommes obligés de responsabiliser le peuple de Dieu comme jamais auparavant. Ouh, bah, yeah. Vous savez que l'onction, ça se transmet. Et j'ai une parole prophétique. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à l'époque de ce que la Bible appelait les pestes et que nous, on appelle les épidémies qui vont revenir. Amen. Mais l'épidémie, c'est quoi? C'est quelque chose de mauvais qui se transmet. Bien, au lieu de s'affoler de tout ça, voyez-y un signe prophétique. Parce que l'onction, ça se transmet aussi. Et si le diable redouble d'efforts pour que se transmette de personne à personne, jusqu'à toucher dans une même journée des milliers de personnes, un virus mauvais, Dieu, il ne peut pas faire mieux avec son onction pour toucher des milliers de personnes en une journée, pour les guérir. Alors arrêtons de parler de tous ces grands prodiges que le diable y fait. Faisons-le râler. Voyons-y des paroles prophétiques et des actes prophétiques de ce que Dieu va faire. Cette vague, ces vagues du tsunami, c'est vrai, c'est terrible. Eh bien moi, je vois un grand réveil qui est en train d'arriver, qui va bénir des milliers de personnes. Alléluia. La grippe aviaire, c'est vrai, c'est sur notre terrain. C'est pour ça, eh bien, Dieu va l'utiliser pour qu'on devienne plus sérieux. Amen. Parce qu'on ne peut pas être protégé à n'importe quel prix. On est protégé quand on est bien sous sa coupe. Alléluia. Et de plus en plus, des gens, ils vont avoir envie de se mettre sous la coupe de Dieu, croyez-moi. Et même les chrétiens froids, les chrétiens tièdes, vont se rendre compte, eh bien, que ça ne protège pas simplement d'aller à l'église, de lever les mains, de chanter Alléluia avec tout le monde. Ils vont avoir envie, et moi le premier, comme jamais, d'être vraiment dans la main de Dieu et dans la protection de Dieu. Donc au lieu de voir que le côté négatif de ces choses-là, voyons que ça va nous faire redoubler d'efforts, de sincérité, de sanctification. Alléluia. Vous savez, quand Dieu n'arrive pas à nous faire faire les choses dans la douceur, il nous les fait faire dans la force. Mais il le fait pour notre bien, pour nous sauver. Dans Actes 10, 44, il est dit « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. » Donc Pierre, il a permis à l'onction de se libérer et de tomber sur ses auditeurs simplement en parlant. Et pendant que je parle, eh bien l'onction, elle peut continuer à descendre sur les gens. Donc si vous la sentez descendre sur vous, ne résistez pas à l'onction. Ok ? Laissez couler. Vous voulez faire un peu de bruit, c'est pas grave, ça gêne personne. Enfin, pas moi. Actes 11, 15, il précise ailleurs, lorsque je me mis à parler dans la maison de Corneille, le Saint-Esprit descendit sur les gens. Donc l'annonce de la parole de Dieu libère l'esprit. Actes 10, 44 nous précise quand même que le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient. Pas seulement sur ceux qui étaient là, mais sur ceux qui écoutaient. La manière dont nous écoutons permet au Saint-Esprit de se manifester, car la foi vient de ce qu'on entend. Et plus précisément, de ce qu'on comprend dans ce qu'on entend. Parce qu'il vient de la parole révélée, d'après Romains 10, 17. Et le Saint-Esprit, c'est comme l'électricité. Vous savez, l'électricité, là, ce soir, vous savez que c'est une super bénédiction. Ça me permet de parler dans un micro et d'être entendu de chacun de vous. Ça nous permet d'avoir des jolies lumières, hein. Ça nous permet d'utiliser des guitares électriques. Et l'électricité, c'est ce qui ressemble le plus dans le naturel à l'onction. Jésus, c'est la lumière du monde. Avec l'électricité, on peut avoir la lumière. Total impro. L'électricité vous secoue, vous chatouille selon l'intensité. Et ces manifestations de l'esprit sont courantes. On sent des chatouillements, on sent quelque chose qui se passe, qui nous enveloppe. Une chaleur. On le verra aussi, on n'est pas toujours obligé de sentir quelque chose pour que Dieu nous touche. Donc si vous ne sentez rien ce soir, ne dites pas « Dieu ne me touche pas ». Amen. Mais si vous écoutez et vous comprenez, recevez avec foi et vous en verrez les résultats. Donc c'est bien de sentir, mais ce n'est pas la condition. Dieu n'a pas dit « Si deux d'entre vous sentent quelque chose, je suis au milieu d'eux ». Il a dit « Si deux d'entre vous s'assemblent, dans la foi et dans l'unité en d'autres termes ». Nous l'avons vu, je suis au milieu d'eux. Si vous tombez quand on prie, eh bien tombez. Si vous ne tombez pas, surtout ne vous laissez pas tomber. Il y a des gens parfois lorsque les autres s'avancent, ils disent « Oh là, je suis le seul qui ne tombe pas, je vais passer pour un idiot ». Alors ils se laissent tomber, c'est là qu'il se fait mal. N'essaye pas d'avoir l'expérience de l'autre. Amen. Souvent dans un même couple, il y en a un qui sent des tas de trucs, l'autre il sent rien. Moi pendant des années, je n'ai rien senti du tout, mais j'ai cru. Et j'ai su en qui j'ai cru. Et je connais beaucoup de mes amis qui se fiaient à tout ce qu'ils sentaient, ce qu'ils ne sentaient pas. Ils ne sont plus en course aujourd'hui. Parce que leur foi n'était pas bâtie sur ce qu'ils croyaient, elle était bâtie sur ce qu'ils sentaient. Assurez-vous que votre foi n'est pas bâtie sur ce que vous sentez, mais sur ce que vous croyez. Maintenant, sur le fondement de ce que vous croyez, si vous sentez, tant mieux. Et si ce soir vous sentez, demain vous rentrez, et vous dites « Oh, je ne sens plus rien, il n'y a plus d'onction », mais non! D'ailleurs, souvent, les gens qui sentent beaucoup Dieu, ils sentent beaucoup le diable aussi. Et souvent, ils arrivent à un stade où ils confondent les deux. Alors moi, je préfère sentir normalement les deux. Oh. Non, il faut donner ces précisions. Je me suis retrouvé dans des séminaires où les gens ont les culpabilisé tellement. Tu as senti la présence de Dieu? L'autre, il est là, non, non. Après, le lendemain, on lui repose la question. Il ne veut pas passer pour un idiot. Il dit, oui, oui, je la sens, je la sens. Et les gens, des fois, ils te culpabilisent. Vous avez senti la présence de Dieu? Moi, je dis, non, je ne l'ai pas senti. Alors, qu'est-ce que ça change? Mais je sais qu'elle est là, parce que je sais la reconnaître. Amen. Et le discernement, ce n'est pas obligatoirement sentir. Tu as senti la présence de Dieu? Des fois, oui, des fois, non. Mais d'ailleurs, parfois, j'ai été encore plus béni quand je ne le sentais pas que quand je le sentais. Amen. Ça me rappelle un serviteur de Dieu qui, un soir... Le Seigneur lui avait dit de prier pour les malades et il était fatigué. Et il rentre dans l'église, il dit, mais Seigneur, comment tu veux que j'arrive à faire quelque chose, à avoir des résultats dans la guérison? Il a entendu une voix audible du Saint-Esprit qui lui a dit, pourquoi, tu as l'intention de les guérir? Qu'est-ce que ça change que je sois fatigué ce soir, que je ne sois pas fatigué, puisque ce n'est ni par puissance ni par force? Et vous remarquerez que c'est des fois où vous avez le moins envie d'aller à la réunion parce que vous êtes fatigué, vous avez été attaqué toute la semaine ou toute la journée, que Dieu a quelque chose pour vous. Le diable, il a travaillé à l'avance pour que vous ratiez. Et le nombre de chrétiens que je vois même dans mon entourage, ils sont toujours en train de rater les rendez-vous de Dieu. Mais moi, je ne les rate pas parce que je ne me fie pas à ce que je sens. Et d'ailleurs, maintenant, plus je me sens mal, parfois, plus je dis « Dieu, il a quelque chose de bon pour moi ». Car nous ne marchons pas par la vue, donc par ce que nous sentons, nous marchons par ce que nous croyons. Et la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce soir, nous annonçons la parole de Dieu. Amen. Et même on ne ferait pas d'appel, ça suffit pour repartir chez soi et libérer quelque chose de puissant pour son futur. Vous savez, l'électricité, ça passe d'un corps à l'autre. On a eu des réunions à des moments où il y avait quelqu'un au premier rang qui était sous l'onction de l'Esprit, et là il sentait, hein. Je n'ai pas nié qu'on ne doit pas passer par des moments où on sent l'onction de Dieu, mais il suffisait que des personnes derrière le touchent. Je me rappelle quelqu'un qui le touchait pour lui dire « qu'est-ce qui t'arrive ?» Oh, ça sautait sur eux, et ça sautait sur l'autre personne jusqu'au 10e rang. Il y avait une épidémie de Saint-Esprit. Moi, je veux une épidémie de Saint-Esprit. Ah. Parce que j'arrive pas à concevoir que ce que le diable fait, Dieu ne fasse pas une démonstration dans les temps à venir pour éclipser son pouvoir, parce qu'il y a confrontation de puissance. Si le diable redouble d'efforts, on est d'accord, eh bien Dieu va engloutir le mal dans le bien, il va engloutir la défaite dans la victoire, il va engloutir la mort dans la vie, il va engloutir la maladie dans la guérison. C'est comme ça que je conçois Dieu. Sinon, le petit Jésus en sucre de Noël, c'est pas ma conception. Une fois qu'on l'a mangé, il peut plus rien pour nous, celui-là. Moi, je crois à la noblesse qui accompagne l'appel des chrétiens. Alléluia. Ma notion du serviteur de Dieu, c'est plus Mel Gibson dans Braveheart, vous savez, que le pasteur dans la petite maison dans la prairie, qui est toujours en train de s'excuser de tout. Dans un souffle nouveau, on ne l'embaucherait pas, lui. On l'aime, alléluia. Mais on veut embaucher des Mel Gibson. Les gens qui font sauter les têtes, là. Alléluia. Jésus était rempli d'un esprit, c'est-à-dire d'une onction de sagesse. Non, Josué, pardon. Car Moïse avait posé les mains sur lui. Et Jésus, lui, avait une huile de joie. Dites-moi, les amis, c'est difficile de faire la tête toute la journée quand on a une huile de joie sur soi. Dans la notion qu'on a de Jésus, souvent rendue par certains films, Jésus très sérieux, Jésus fait un miracle, Jésus ressuscite Lazare, Jésus rentre chez lui. On a déjà écrit sur Martine comme ça, un point. Non, ce qu'il nous faut, c'est... Il devait éclater de rire. Tu es loin d'une huile de joie. Si tu n'es pas joyeux, si tu ne ris pas alors que tu as une huile de joie... C'est un non-sens. Donc il faut briser tous ces schémas, vous savez, ces schémas très religieux souvent, qui nous sont retracés même par les films. Ça va beaucoup plus loin aussi. On a l'impression que les disciples avec Jésus, c'était une bande de mendiants qui faisaient l'aumône. Mais non, ils avaient un véritable trésor. D'ailleurs, Judas, il tapait dedans, on le voyait pas, il fallait qu'il y ait de l'argent. C'était pas des mendiants. On nous montre dans les films les mages qui arrivent dans la grotte, il y a l'âne qui souffle. Mais dans la Bible, il nous dit qu'ils sont rentrés dans une maison. Vous voyez, on est lié par des tas de schémas qui ne sont pas vraiment dans la Bible. Ça signifie que Dieu, dans l'étable, il ne veut pas vous y laisser longtemps. Même si parfois il faut se retrouver dans les tables les uns les autres, Dieu il va pas nous y laisser longtemps. Et quand les mages ils sont venus lui donner les trésors, dites-moi, ils sont pas repartis avec les trésors chez eux. T'as vu Jésus, c'est bien, hein, pas mal, sent bien. Et, au revoir. Ils lui ont laissé. Il a démarré millionnaire. Il y en a qui sont contre la prospérité. Il n'avait pas de problème, il n'allait pas faire la manche dans la rue. Il faut briser toutes ces fausses conceptions qui n'ont aucune base biblique. L'onction se communique, se libère à travers plusieurs supports, à travers les mains. C'est pourquoi il est dit d'imposer les mains. Maintenant, l'imposition des mains n'est pas une obligation, parce que quelqu'un est venu trouver Jésus, il lui a dit « Dis seulement une parole et je serai guéri. » Et Jésus aurait pu lui dire « Mais attends, il faut passer par l'imposition des mains. Il faut faire les cours de... » Le gars, il avait compris qu'une parole, ça suffisait. Vous imaginez, vous venez ce soir, vous avez un cancer, et on va avoir un beau appel, et vous, à la fin de la réunion, au moment de l'appel, vous repartez chez vous. Et quelqu'un vous dit, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là, pourquoi il part? Parce que tu estimes que ça t'a suffi la parole que tu as reçue. Mais c'est une foi encore plus grande. En même temps, l'imposition des mains, c'est biblique. Amen. L'huile, c'est biblique, d'oindre les gens d'huile. C'est un symbole du Saint-Esprit. Toutes ces choses nous servent de point de contact. à travers lesquels on libère sa foi. On a besoin dans la vie souvent d'un point de contact. C'est là qu'on va m'imposer les mains, on va prier pour moi, on voit moindre d'huile, je libère ma foi et Dieu libère son esprit à cet instant. Des mouchoirs aussi. C'est, Dieu n'est pas limité, dont l'onction est quelque chose qui se transmet, ça se transmet dans un mouchoir. Et d'ailleurs, ça ne se transmet pas dans tous les... Pas dans tous les mouchoirs, parce qu'il y en a qui sont plus sales que d'autres. Mais... Dans le plastique, par exemple, ça ne passe pas. Et le sacrificateur, les Lévites, dans l'Ancien Testament, ils devaient être vêtus d'une certaine manière parce que l'onction ne passait pas à travers toutes sortes de tissus. Par le souffle, Jésus souffla sur ses disciples, il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Maintenant, de là à se mettre à souffler sur tous les gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Amen. Regardez Jésus, il a guéri des gens, avec du crachat. La Bible Second, elle est très gentille. Oh, qu'elle est gentille, la traduction Second. Elle dit que Jésus mit du crachat sur les yeux de l'aveugle. Le texte original, il dit qu'il a craché sur les yeux de l'aveugle. Vous vous avancez tout à l'heure et puis on reçoit de Dieu que vous êtes guéri en vous crachant dessus. Vous imaginez un peu ? Déjà le combat pour nous d'obéir. Bon, si on l'a reçu, vous êtes guéri. Et si ce n'est pas de Dieu, on va déguster. Ça me rappelle un autre serviteur de Dieu qui avait vraiment reçu du Seigneur. Il priait justement l'imposition des mains. Le Seigneur voulait le diriger différemment. Il y avait quelqu'un qui avait une grosseur. Le Seigneur lui dit, là, arrête de lui imposer les mains. Donne un coup de poing dans la grosseur. Ouh, lui, il fait comme s'il n'entend pas. Et puis la personne va se rasseoir. Et pendant qu'il prie pour les autres personnes, il est en train de culpabiliser. Il sent sa conscience reprise par le Saint-Esprit. Et il voit ce gars toujours malade là. Et finalement, il le fait venir et il lui dit « Montrez-moi votre grosseur. » Et bam, il donne un coup de poing à la grosseur et elle disparaît instantanément. Mais ça, c'est une parole particulière du Seigneur. Si tout à l'heure, on vous frappe tous pour vous guérir, il faut vraiment que ce soit de Dieu. Et il y a des gens, parfois, ils tombent sur un verset comme ça dans l'Écriture et ils disent « Bon, allez, je le mets en pratique. » Non, il faut le recevoir personnellement. Tandis que l'imposition des mains, l'onction d'huile, il nous a dit qu'on peut le faire. Amen. Ça, c'est quelque chose. Allez imposer les mains. Mais il ne nous a pas dit, allez cracher. Vous me suivez? Donc, ne crachez sur personne pendant le week-end. Samson, c'était dans ses cheveux. Bon, moi, ce n'est pas le cas, je vous rassure. Ce n'est pas pour ça que j'ai la queue de cheval. Mais le Seigneur, il peut placer son onction dans des supports différents. Oral Robert, il sentait que c'était dans sa main. Il priait, il fallait qu'il sente que ça commence à vibrer. Tant que ça ne vibrait pas, il ne rentrait pas pour prier pour les gens. Et lui, il pouvait prononcer la parole, il ne se passait rien, mais dès qu'il touchait, les démons, ils commençaient à sortir. C'était une onction particulière. Bénin, c'est différent. Chacun doit trouver son onction. Et certains de ces supports permettent à l'onction de se transférer. D'autres servent de point de contact pour libérer la foi. Exemple, l'ombre de Pierre. Vous imaginez, les gens sont guéris à travers le support de l'ombre. Ouh. Gloire à Dieu. L'esprit, le mot signifie aussi vent. En hébreu, esprit, vent, souffle aussi. Lorsque le vent il souffle, il produit des effets. Les arbres sont couchés, secoués, frissonnent. On peut frissonner, avoir de la chaleur du vent. Et le Saint-Esprit, il a plusieurs expressions. La Bible dit que Dieu fait de ses anges, qui sont des esprits, des vents et des flammes de feu. Et l'Esprit de Dieu s'exprime donc à la fois en nous parlant, nous dirigeant, nous consolant. Mais comme le fait un vent lorsqu'il passe dans une vallée. Et le vent, lorsqu'il souffle fort, il fait même tomber les arbres. Il peut même déraciner les arbres. Une des manifestations par excellence qui montre la présence de l'Esprit Saint et que l'on retrouve quasiment à travers tous les grands réveils, ce fait étrange de prime abord, les gens qui tombent. On n'est pas obligé de tomber, mais beaucoup de gens se mettent à tomber. Il y a des gens, vous les touchez 10 fois, ils tombent 10 fois. D'autres, vous les touchez 50 fois, ils ne tombent pas. Les gens sont différents, on ne sait même pas pourquoi. Nous avons des sensibilités différentes, Dieu nous touche selon notre sensibilité. Ce qui est bon pour nous n'est pas obligatoirement bon pour l'autre. C'est pourquoi la Bible nous dit de ne pas nous comparer. Des gens tombent sous la puissance de l'Esprit, ce n'est pas une obligation, mais c'est une manifestation courante là où l'Esprit souffle. Et plusieurs des grands revivalistes font état de ce phénomène au cours de leur réunion.
Dans une biographie de John Wesley, il est dit qu'il y avait parfois de véritables épidémies de chute, des épidémies de chute de personnes foudroyées par la parole de Wesley. Et pendant les réunions, il disait aux gens de descendre des arbres parce que des gens ils tombaient des arbres ou ils s'étaient perchés pour écouter le prédicateur. Donc avant de commencer les réunions, il disait que tous les gens descendent des arbres. Là, vous risquez rien, là. Maria Wurzel-Sitzer a été une femme évangéliste, et oui, il y en a, des plus ointes de notre génération. Ses déplacements étaient accompagnés de signes et de prodiges nombreux, et des plus variés, mais tombés dans l'esprit était la plus répandue. Et pendant ces réunions, il y avait tellement de personnes qui tombaient que les salles et les tentes dans lesquelles se pressaient les foules ressemblaient à des champs de bataille. Des gens se mettaient à tomber même à certains moments alors qu'ils se trouvaient à des dizaines, des centaines de mètres du lieu où se déroulaient les réunions. Ça s'appelle l'onction qui a dépassé les murs. Ça, c'est une méga onction. C'est pas le petit club à onction. À l'époque du réveil d'Azusa Street, il y a des gens qui devaient faire le tour du quartier. Ils devaient changer leur parcours habituel parce que chaque fois qu'ils passaient à une certaine distance de l'église, ils tombaient par terre. Ils devaient faire un grand détour. Il est venu des pompiers parce qu'ils ont vu le feu. Et il n'y avait pas de feu. C'était une vision du feu de l'esprit. Il est dit que des hommes, des femmes, des enfants tombaient dans leur maison. À l'époque de Maria Wurzel-Sitzer, sur leur lieu de travail, le long des routes, gisaient étendus comme des morts. Ils recevaient des visions merveilleuses étendues. Ils se relevaient convertis, rendant gloire à Dieu. Nous avons vu plusieurs personnes rentrer dans nos églises, on ne savait plus quoi leur dire, et tomber par terre et se relever, sortir de 3 ans de dépression. Qu'est-ce que l'intelligence humaine a à voir avec ça? Souvent, tu as tout essayé en tant que pasteur. Et un jour, le Saint-Esprit les touche d'une manière différente. Et tout ce que tu as expliqué pendant des années, que tu crois qu'il n'a pas compris, il a tout compris ce jour-là. Finet, il témoigne également de ces choses. Pendant ces campagnes, des gens tombaient chez eux, sur leur lieu de travail. J'en profite pour faire la pub pour mon livre sur l'onction. Parce que c'est rempli d'exemples pour que vous compreniez bien que ce n'est pas une nouvelle doctrine, ce n'est pas l'enseignement d'une secte, alléluia, ce n'est pas une énergie bizarre qui se promène de tout temps. On l'expliquera mieux demain. De tout temps, Dieu s'est manifesté par ces signes qu'on revoit dans tous les grands réveils. Pendant le réveil d'Azusa Street, oui, les gens tombaient en passant simplement devant le lieu de réunion. Tout au long de la Bible, on voit souvent que lorsque la puissance de Dieu se manifestait, des gens tombaient sous l'effet de cette puissance. Donc tomber, c'est bien biblique. Apocalypse 1:17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Pouf. Daniel 18:9, 17, 18. J'entendis le son de ses paroles et comme je l'entendais, je tombais frappé d'étourdissement. Jean 18:6, lorsque Jésus leur dit « C'est moi !» ils reculèrent et tombèrent par terre. Ézéchiel 1:28, à cette vue, je tombais sur ma face. Ézéchiel 3:23, la gloire de l'Éternel y apparut, alors je tombais sur ma face. Acte 9:2-4, une lumière venant du ciel resplendit autour de Paul et il tomba par terre. Je me rappelle me trouver dans certains milieux étroits où on me disait « Mais c'est du diable ce truc, parce que c'est pas dans la Bible. » Alors à force d'entendre dire que c'était pas dans la Bible, j'ai cherché dans la Bible si ça y était ou pas. Et je me suis rendu compte que le nombre de versets qui montrent que les gens tombaient par terre dans l'Ancien Testament, à commencer par Adam déjà, un nombre considérable de versets dans la Bible nous montre que sous l'onction de l'Esprit, souvent les gens tombent. Et Paul, il a précisé qu'il est tombé par terre. Ailleurs dans les actes, il précise « Nous sommes tous tombés par terre. » Lorsqu'ils entendirent cela, Jésus parlait, les disciples tombèrent la face contre terre. Un ange du Seigneur descendit, les gardes tremblèrent et devinrent comme morts lorsque Jésus est ressuscité. Alors nous sommes habitués à voir les gens tomber et à les voir se relever. Mais à l'époque de Maria Wurzel-Sitzer, il y a des gens qui restaient 3 jours allongés. Leur mari essayait de les bouger, il n'arrivait pas. Et pendant ce temps, les gens étaient enlevés dans des visions divines. Et le gars est resté allongé 3 jours. Alors si vous partez pour 3 jours, ce soir, ou demain ou après-demain, on va essayer de vous garder au chaud.
Et c'est dangereux de rentrer dans cette dimension.
Alléluia. Mais là, on parle de tomber. Dans Ézéchiel, il est question que l'Esprit a relevé des gens qui étaient tombés. Donc, on va rentrer dans des dimensions où, au lieu de voir simplement les gens tomber, on va les voir par terre, on va les voir remis sur pied par le Saint-Esprit. Donc, croyez-moi, il faut être ouvert à ces choses-là. Vous vous rendez compte, vous n'avez même plus à les relever. Plom, 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 plom. Saül, lorsqu'il a été visité par l'Esprit, il tomba prostré et nu tout ce jour-là et toute la nuit. Il a passé 24 heures dans cette situation. Et un verset dans l'Écriture, et nous terminons par cela, concernant Jésus qui se manifeste au milieu de ses enfants et de son Église dans sa gloire, au milieu de son temple, d'après Malachi, nous dit « Quel est celui qui tiendra debout quand il paraîtra ?» On va voir certaines réunions dans les temps à venir allongées. Ça va, oui, ça va. Et toi, ça va? Alors, eh bien, quoi que ce soit que vous receviez pendant ce week-end, et n'acceptez pas de rien recevoir, quand vous repartez, allez avec l'onction qui est en vous et qui aura augmenté sur vous. Mais surtout, soyez meilleurs. L'onction, elle a été donnée pour devenir meilleur, pour rendre un témoignage. Il y a des gens, plus ils sont dans des réunions, plus ils empirent. On commence à en avoir assez de ces chrétiens qui nous grillent, parce que plus ils viennent dans nos réunions, plus ils empirent, qui restent chez eux. Amen. Ce qu'on veut, c'est les gens qui viennent pour devenir meilleurs. Si le Saint-Esprit te visite, laisse-le travailler l'intérieur, parce que si tu le laisses travailler que l'extérieur, ça va te revenir dans la figure. Amen. Ça doit aller à l'intérieur. Ce qui est important, ce n'est pas le signe extérieur, c'est ce qui se passe dans ton cœur. Quand tu vas rentrer, tu vas être meilleur avec ta femme ou tu vas être pire? Tu vas être meilleur avec ton mari ou tu vas être pire? Tu vas être meilleur avec tes enfants ou tu vas être pire? Si tu vas être pire, ne viens pas à la réunion. Qu'il ne t'arrive rien, que tu ne sentes rien. Parce que l'onction est donnée pour devenir meilleur. Il m'a oint pour. On veut des chrétiens qui deviennent meilleurs de réunion en réunion, meilleurs maris, meilleures épouses. On veut des chrétiens qui rentrent dans ce lieu, ils sont médisants, ils ressortent, ils n'ont plus envie de parler contre personne. Alors là, on aura l'onction qui est utilisée pour les raisons pour lesquelles le Seigneur l'a donnée. Alléluia. Là, on aura un peuple qui se lève et quand il prie, Dieu, il écoute. La Bible dit, Juges 6,14, va avec cette force que tu as. Lorsque nous acceptons d'aller avec ce que nous avons, la mesure d'onction que Dieu nous a donnée, même si on trouve qu'elle est trop petite encore, eh bien, Dieu va nous rémunérer dans notre fidélité et va augmenter la mesure d'onction qui est dans notre vie. Qui est-ce qui a envie que la mesure d'onction dans sa vie, elle augmente? Voilà, si tu es fidèle, alors dis pas, je veux plus d'onction. Qu'est-ce que tu peux faire avec ce que tu as déjà? « Oh, mais j'ai pas beaucoup d'amour. » Eh bien, au lieu d'arriver et de dire « ça manque d'amour dans cet endroit », donne déjà le peu que tu as. Ok? T'as pas beaucoup d'amour? Eh bien, Dieu, il te demande pas ce que tu as. Mais tu en as au moins un peu. Eh bien, donne-le. Au lieu de râler toute la journée, donne-en un peu. Alléluia. Ah, j'ai pas beaucoup de temps. Mais qui te demande le temps que tu n'as pas? Mais le peu que tu as, utilise-le. « Ah, mais j'ai pas beaucoup d'argent. » Mais qui t'a dit que Dieu te demandait d'apporter des lingots d'or? Mais donne le peu que tu as. Et quand tu es fidèle avec le peu que tu as, alors là, Dieu, il augmente. Amen. Est-ce qu'on peut lever nos mains ce soir? Alléluia, Seigneur. On veut devenir plus fou. Alléluia. Je veux que vous repartiez de ce lieu avec un virus. Je veux que vous repartiez de ce lieu. Et puis, les gens vous trouvent fou comme jamais. Ils vous disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et Jésus, il accusait d'être fou. Amen. Tiens, un démon, lui disait, parce que c'est pas normal comment tu agis. C'est pas selon la sagesse humaine, alléluia. Il nous faut des chrétiens un peu plus fous, alléluia. D'ailleurs, avec mon épouse, on cherche vraiment des barjots.
je vous assure, on a été déçus ces dernières années parce qu'à un moment donné, avec des tas de gens, on arrive à une limite. Alléluia. Ils commencent à avoir peur de tout. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on soit prêt à mourir. Alors, quand on est prêt à mourir, qu'est-ce qu'on peut craindre? Qu'est-ce qu'il nous reste à craindre? Amen. Et on est à la recherche en ce moment. En ce moment, on cherche des gens atteints. Les gens, ils se sont arrêtés par rien parce qu'il y a tellement de raisons d'être arrêté. Il n'y a plus rien qui peut t'arrêter quand tu es prêt à mourir. Amen. Celui qui perd sa vie, il la retrouvera. Seigneur, nous te bénissons ce soir.